avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 107e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. L'édito qui sera consacré aux photos pour accompagner le podcast. Le deuxième segment qui est une rencontre avec Bernard Perrine pour discuter photo et discuter de l'histoire de la photo. Et le troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Retenez l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez poster un commentaire, retrouver tous les liens de l'épisode. C'est là également que vous pourrez vous abonner et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, en particulier iTunes, l'abonnement RSS et donc tous les agrégateurs RSS, y compris Netvibes, iGoogle et les autres, sans oublier l'abonnement courriel. Sur le blog, vous pouvez également écouter tous les épisodes, mais vous trouverez sans doute plus pratique de les installer sur un baladeur MP3, un iPod, téléphone multimédia ou encore de graver un CD pour les emporter avec vous en voiture, dans le train, dans le métro, en reportage photo, pour faire du shopping ou pour faire du sport. Premier segment, donc, l'édito consacré au Canon G9. C'est un petit événement pour moi parce qu'après plusieurs années à n'avoir utilisé que des boîtiers réflexes numériques, je retrouve un compact. La logique, évidemment, c'est déclencheur. Je réalise de plus en plus d'interviews, donc je voulais pouvoir prendre quelques photos pendant les interviews, sachant qu'il y avait quand même un problème. Le sac de reportage pour le son, il est déjà bien rempli avec les micros, l'enregistreur, les casques, etc. Il restait qu'une toute petite place, certainement pas de quoi y glisser un boîtier réflexe. Comme je le disais à l'instant, il y a quelques années que j'ai plus utilisé un compact de façon régulière, et il y a deux choses qui m'ont vraiment surpris. Un, le choix a été très difficile, j'aurais envie de dire faute de combattants. J'ai vraiment eu l'impression que tous les compacts sortent du même moule, et ça ne m'a pas l'air d'être un très bon moule. J'avais pourtant un cahier des charges super simple, petit, travaillant en RAW pour rester dans mes habitudes, et capable de photographier en lumière ambiante dans les lieux où j'enregistre, c'est-à-dire des brasseries et des bureaux. Donc en final, un éclairage qui correspond à ce qu'on a à l'intérieur chez soi, quoi. Eh bien, c'est pas facile de trouver ça. Très peu de modèles avec un objectif lumineux, et surtout des résolutions complètement délirantes qui font des appareils extrêmement bruités. Alors vous allez me dire, suffit de mettre un flash. Oui, mais le flash, il est deux fois plus gros que le compact. Ça enlève pas mal de l'intérêt. Plus fondamental, à mon avis, je me réjouissais récemment de voir des systèmes LiveView intégrés sur les réflexes. J'ai eu l'occasion avec ce compact de retrouver la visée électronique et elle a fait des progrès phénoménaux. D'abord, il y a le supplément de confort quand on fait du portrait. On n'a pas l'œil collé à l'appareil et donc on peut garder le contact avec son sujet. Et pour moi qui en plus suis en pleine conversation puisque j'enregistre une interview en même temps, c'est un vrai supplément de confort. Deuxièmement, l'écran, il est gigantesque et il a un angle de vue qui est phénoménal. Ça veut dire qu'on peut avoir l'appareil très incliné, on arrive encore à viser. Alors sur certains modèles, il est même orientable, c'est pas le cas ici, mais ça veut dire par exemple que pour photographier des enfants, on met l'appareil à la hauteur de l'enfant. Même chose pour de la nature morte ou de la macro. On n'a pas, comme sur un réflexe, à utiliser un viseur d'angle ou à se tordre dans tous les sens. Nouvel élément de confort. Ensuite, il y a l'autofocus à détection de visage. Alors, j'avoue que quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, voilà bien un gadget complètement inutile. Pas du tout. C'est vraiment incroyablement pratique. Avec le réflexe, ce que je fais, c'est faire le point et puis recadrer. Grâce à cette détection de visage, en fait, je peux simplement cadrer et l'appareil se débrouille tout seul pour trouver le sujet et faire le point. En tout cas pour du portrait, et vous l'avez compris puisque c'est des photos réalisées pendant les interviews, c'est essentiellement du portrait que je souhaite faire. Dernier élément, et ça m'a aussi bluffé, il y a un histogramme en temps réel qui s'affiche à la prise de vue. Alors, depuis toujours, il y a un histogramme sur les appareils numériques, donc ma routine, c'est faire la photo, vérifier l'histogramme pour m'assurer que l'exposition est bonne. Si elle n'est pas bonne, j'enclenche une correction et puis je refais la même photo. Ici, pas du tout. L'histogramme s'affiche avant la prise de vue. Il est mis à jour en temps réel. Donc ça veut dire qu'avant même de faire la photo, je peux tout de suite faire la correction d'exposition. Alors comprenons-nous, la visée réflexe a des qualités uniques pour certains types de photos. On pense au sport, la photo animalière, etc. Mais pour la nature morte, pour le portrait, pour ce genre de choses, j'ai qu'un mot, formidable. Il ne reste qu'à avoir ça, évidemment, avec un objectif un petit peu ambitieux et un capteur un peu ambitieux, un objectif lumineux, un capteur avec une résolution raisonnable par rapport à la taille. J'espère vraiment que Sigma ne sera pas le seul à produire un compact avec un capteur d'une grande taille. Sincèrement, la visée numérique m'a convaincu. Deuxième segment, une rencontre avec Bernard Perrine. Je crois que ça rejoint tout à fait l'édito. Bernard était le rédacteur en chef du magazine Le Photographe, un magazine qui s'adresse aux professionnels de la photo, très agréable à lire, je vous le recommande vraiment. Et tous les ans, en s'appuyant sur les différentes statistiques de vente et autres, il réalise un état du marché. Et ici, j'ai demandé à Bernard ensemble de nous faire un petit peu une synthèse de l'évolution du marché de la photo sur les 100 dernières années. Vous allez voir, moi j'ai trouvé ça passionnant. Bonjour, je suis avec Bernard Perrine, bonjour.
Bonjour.
Moi je te connais comme, il n'y a pas très longtemps, tu étais rédacteur en chef du Photographe. Maintenant je sais que tu es toujours attaché à la rédaction. Photographe, ce n'est pas la revue photo la plus connue, mais c'est une revue assez pointue et assez intéressante. Tu peux nous expliquer?
Et assez ancienne.
Et assez ancienne, effectivement.
Puisque en 2010, si on y est encore, ça fera 100 ans.
Ah oui?
Oui, 100 ans.
Sous le même nom ou elle a changé de nom?
Non, sous le même nom. Elle a été créée en février 1910 et elle paraissait toutes les semaines, paraissant le dimanche.
Voilà. Et c'est une revue qui vise plus un marché professionnel.
Voilà, complètement. Donc le Photographe au départ en 1910 était une revue qui a été créée par Paul Montel, avec l'intention de rassembler un peu toutes les associations, les groupements de photographes professionnels qui étaient nombreux et qui se tiraient dans les pattes et qui faisaient des actions diverses. Et donc, il y a un bulletin qui est né, qui paraissait donc tous les dimanches, avec une quinzaine, une vingtaine de pages, quoi, donc comme à cette époque-là. À l'occasion du numéro 1500, on a fait un numéro spécial qui retraçait un peu l'histoire du photographe depuis sa création jusqu'à la guerre. On s'est arrêté à la guerre. Ma première surprise, donc, quand j'ai analysé le photographe, c'est que j'ai trouvé dans les premiers numéros de 1910 les problèmes d'actualité que l'on rencontre aujourd'hui. Je cite un des grands titres, « La photographie est morte ».
Déjà ?
Déjà, oui, absolument.
Alors, on n'arrête pas de mourir.
Voilà, il faut se remettre un peu dans le contexte. On peut très bien comprendre ce qui se passait à ce moment-là pour tous les revendeurs. Il faut dire que les revendeurs n'étaient pas les revendeurs qu'on connaît actuellement. Hein. C'était vraiment des photographes. Mais il y avait une sorte de révolution avec l'introduction en 1880 du fameux Kodak. Vous appuyez sur le bouton et on fait le reste. Quoi. Mm-hmm. Donc effectivement, au départ, on pouvait voir dans cette révolution, qui était arrivée un petit peu tardivement en France, on pouvait voir effectivement la mort d'un certain type de photographie qui était faite à la chambre, etc. etc. Donc, l'invention de Kodak, de George Eastman, a été effectivement de donner à plus de gens la possibilité de faire de la photographie. Et si on regarde un peu l'histoire jusqu'à maintenant, on se rend compte que ça a toujours été comme ça, avec des dates un peu ruptures, les dates un peu ruptures des années d'après-guerre, avec l'arrivée des réflexes japonais qui ont mis la photographie à un prix abordable, disons pour une classe moyenne. Mm-hmm. Pour une classe moyenne, parce que je me rappelle que dans les années 60, un réflexe valait 3000 francs. Ça faisait à peu près 3 ou 4 SMIC d'un ouvrier français. Donc c'était une chose très chère, quoi. Mm-hmm. Mais arrivée donc de la photographie qui passait, disons, des classes professionnelles et expertes à une classe un peu moyenne. Et puis la deuxième rupture, moi je la situerais aux alentours des années 80, toujours avec l'arrivée des Japonais, avec l'arrivée du compact. L'arrivée du compact qui a effectivement démocratisé et qui a permis effectivement à une autre classe de consommateurs d'accéder à la photographie. En sachant aussi que non seulement il y avait le prix, mais il y avait aussi tous les problèmes techniques,
oui,
c'est-à-dire que être photographe dans les années 60, c'est-à-dire maîtriser une technique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec des appareils, c'était pas plus mal d'ailleurs, où il n'y avait pas de télémètre, donc il fallait régler soi-même sa distance. Donc c'est un très bon apprentissage parce qu'on sait ce que veut dire 50 cm, 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres et l'infini. Quoi. Mmh.
Donc, j'avais récupéré un appareil de mon grand-père, comme ça, c'est avec ça que
oui.
J'ai commencé.
C'est voilà. Vrai que. Effectivement,
on est assez vite.
On est effectivement. Si on faisait une étude là-dessus, je pense que ça pourrait influer aussi sur la créativité, etc. Même chose pour la lumière, naturellement, parce que la lumière. Moi, j'ai commencé sans cellule parce que je n'avais pas d'argent. Mais rien qu'en lisant les petites notices des films qui étaient bien faites à ce moment-là, avec soleil caché, soleil voilé, soleil brillant, etc. Bien que la latitude de pose des pellicules était extrêmement pointue à cette époque et la sensibilité assez basse, on était obligé de regarder un peu tous ces paramètres. Tandis que, bon, maintenant, c'est simple, on appuie sur le bouton, c'est automatique et c'est un... Bon, Voilà. Oui. Enfin,
ça peut l'être, mais il y a encore...
Avec les jetables, on fait de très bonnes photos.
Tout à fait.
Et il faut dire que, alors là, bon, si on regarde l'histoire, moi j'ai dit à un moment, c'était pas les appareils qui avaient fait le plus de progrès, mais c'était les pellicules. Les pellicules, maintenant, on a des latitudes de pose qui sont entre 4 et 6 diaphragmes, ou 6 EV, comme on veut. On avait des contraintes techniques, des contraintes d'argent, des contraintes techniques, bon, qui, dans le temps, se sont simplifiées, parce que qui dit compact a dit effectivement en même temps un calcul du temps de pose automatique. Mmh. Ensuite, nous avons eu l'autofocus, c'est-à-dire que les problèmes de mise au point ont été réglés, puis etc., etc., les DX et, et compagnie. Quoi. C'est-à-dire qu'on a simplifié à chaque fois le processus. Mmh. Et quand je dis appuyer sur le bouton, c'est pas... C'est-à-dire qu'on était vraiment arrivé au, à la phrase de George Eastman, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, on fait le reste. Mmh. Et c'est bizarre parce qu'en même temps que c'est arrivé des compacts qui datent de 80-81 sur le marché, vraiment les premiers, on a eu en même temps la bombe de Akio Morita, de Sony, qui a lancé son Mavica. Mmh. C'est-à-dire que c'était, je crois, les derniers jours du mois d'août 1981. Et en lançant le Mavica, qui était une opération de bourse pour Sony, on lançait en même temps les prémices et l'annonce du numérique. À ce moment-là, bon, personne n'y croyait, etc. Mais moi, par exemple, dans le magazine Le Photographe, à partir du lancement du Mavica, on n'a pas quitté le numérique d'une semaine. Les années 80 ont marqué aussi un point technologique important qu'on peut retrouver dans différentes disciplines, qu'on va retrouver dans la vidéo avant, qu'on retrouvera un peu partout ailleurs. C'est que, auparavant, tous les progrès qui étaient réalisés d'abord dans la photographie professionnelle. Mmh. Tous les produits professionnels, c'est eux qui inventaient. Et à ce moment-là, on a une inversion technologique, c'est-à-dire que tous les progrès qui seront faits pour l'amateur et seront faits pour le consommateur. Mmh. C'est-à-dire que, bon... le photographe professionnel n'avait pas du tout besoin de l'autofocus, ni d'un calcul automatique du temps de pose, ni de la miniaturisation, ni de toutes ces choses-là. Et tout a été fait, tous les progrès qui ont été, tous les services de recherche des firmes ont été mis à la disposition de ces progrès pour gagner des parts de marché, pour simplifier la photographie, etc., faire baisser les coûts aussi, afin de conquérir une clientèle de plus en plus vaste.
Et tu viens de dire que le photographe professionnel n'avait pas besoin d'autofocus, n'avait pas besoin de toutes ces choses-là. Il n'en avait pas besoin dans le sens où il arrivait très bien à travailler sans.
Oui, absolument.
Mais je crois que ça a quand même, j'ai l'impression que ça a quand même changé sa manière de travailler.
Ah, complètement.
En le libérant pour faire d'autres choses.
Oui, non, mais je veux dire par là que...
On n'aurait pas fait la recherche pour lui.
Voilà.
D'accord.
C'est pas
que c'était inutile, c'est qu'on aurait...
C'est pas qu'on a développé ça pour les pros, c'est qu'avant, quand il y avait une évolution technologique, d'ailleurs, bon, moi, j'ai des photographes professionnels qui m'ont dit... C'est un peu notre métier. Nous, on a les évolutions technologiques qui nous permettent d'avoir une vision et d'avoir une création complètement différente. Mm-hmm. Je pense, par exemple, sur les Hasselblad et les Reflex, je pense à tous les grands angles qui sont arrivés d'abord en pro avant d'arriver. Ouais. Effectivement, le photographe professionnel, à ce moment-là, il pouvait se payer un outil vis-à-vis de ses clients, d'avoir un cran d'avance sur la photographie amateur. Mmh. Et d'ailleurs, bon, maintenant, on entend des professionnels qui disent « Oui, bah, nos clients nous disent on a les mêmes appareils que vous, en numérique. » Donc, il y a toujours, effectivement, une petite question à se poser à ce niveau-là. On a vraiment une sorte de renversement technologique qui est important pour la profession, pour la création, etc., etc. Et donc, la question, c'est pourquoi maintenant c'est...
Donc, c'est simplement le premier numéro du photographe a démarré en disant « La photographie est morte ». Et c'est toujours d'actualité maintenant. En quoi est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui? Parce qu'on entend exactement le même discours aujourd'hui.
C'est d'actualité parce que, bon, alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est qu'on a vécu une période depuis l'arrivée du numérique jusque, disons maintenant, ça a remis en cause toute une profession. Mmh. Par exemple... L'année de la grande tempête, c'était 99, je crois. Oui, quelque chose comme ça.
Dans ces eaux-là, oui.
Bon, et ben c'est le pic de vente des films en France et un peu dans les pays occidentalisés, le pic des ventes, le summum qui a été vendu, c'est à ce moment-là. Je crois que, par exemple, en France, ça a été plus de 130 millions de films qui ont été vendus dans cette année-là. Alors, une grande partie à cause de la tempête, parce que beaucoup de gens ont acheté des jetables pour faire des constats, etc., etc. Mmh. Un tout petit palier, et après, on a commencé à décroître, effectivement. Donc, pour tous ces gens-là, effectivement, c'était la remise en cause, c'était la fin d'une sorte de photographie. Ça induit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant, avec l'argentique, on avait un passage obligatoire par le magasin ou par le traitement soi-même des films. Mais bon, il y avait très peu de gens qui traitaient, donc on donnait au magasin. Et il y a une chose que je voulais dire, c'est que l'industrie photographique, les grandes firmes photographiques, ont fait des erreurs de marketing absolument énormes. Kodak en a fait plusieurs. Il n'était pas sa première erreur, mais c'est comme la Société Générale. Quand un trader met 5 milliards en l'air, c'est bon, la banque n'est pas foutue. Oui. Quoi. Bon, Kodak se gourait, il a lancé des tas de systèmes, notamment le disque, etc. Bon, ils ont dépensé un argent fou, ils ont pris un bouillon. Bon, mais ça n'a pas empêché Kodak de continuer à tourner. Or, je veux dire, la grande erreur de marketing de ces gens-là, ça a été l'APS. Parce qu'ils ont voulu lancer un système APS au moment où le numérique arrivait. Ils ont développé l'APS, ils ont mis un temps fou. Kodak n'a pas voulu le lancer seul. Donc, il a pris Fuji, il a pris Canon, il a pris Minolta, etc. pour lancer son APS. Et Total, surtout que quand il y avait Kodak et Fuji autour d'une table, Total, on est arrivé au plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire à une bêtise. Ils se sont complètement plantés, c'est-à-dire que technologiquement, il y a eu des erreurs complètement monumentales. Les bandes magnétiques, elles n'étaient pas aux mêmes endroits pour les appareils, ils n'arrivaient pas à les lire, les labos n'arrivaient pas à les lire, etc. Alors, non seulement on a dépensé de l'argent, mais ils ont fait travailler toute leur recherche et développement sur l'APS, alors qu'ils auraient pu le faire
sur le numérique.
On a mis très longtemps à acquérir des tireuses APS parce que les mini-labs coûtaient cher, le marché n'était pas développé, etc. Donc on a perdu beaucoup de temps, c'était pas au point en plus. Et pendant ce temps-là, les fabricants de laboratoires mini-labs ou tireuses, grandes tireuses, ne travaillaient pas sur le numérique. Donc, arrivée du numérique 95-96, première tireuse à peu près opérationnelle sur le marché, en grand volume, 2004. Donc, tout ce temps perdu, ils ont amené à la perte un certain nombre de négoces qui ne savaient plus quoi faire. Parce que eux, les négoces, ils avaient acheté un mini-lab APS. Bon, ils ne pouvaient pas réinvestir dans un mini-lab numérique derrière. Donc, ils étaient coincés. Alors, ils ont continué à faire leur APS, mais bon, il n'y en avait plus.
Mais c'est clair. Moi, j'ai été intéressé par le numérique assez tôt parce que ça correspondait bien à mon mode de travail, puisque j'étais tout le temps devant un ordinateur, etc. Et je me souviens, effectivement, je râlais, je pestais sur les revendeurs qui, vraiment, on avait l'impression qu'ils ne suivaient pas. Et au contraire, ils essayaient d'imposer des trucs que le client ne voulait plus, quelque part. Ce qui a donné la place à des nouveaux entrants, d'ailleurs. C'est comme ça que les labos en ligne se sont développés.
Oui,
on a commencé à aller sur les labos en ligne parce qu'on ne savait pas tirer.
Mais les labos en ligne, ça a été très bien parce que les labos en ligne, ils sous-traitaient avec les grands labos derrière. Donc, ça a redonné un peu de boulot. Mais enfin, bon, il y avait 50 ou 60 laboratoires en France. Il doit en rester 8 à 10 maintenant. Bon,
Mais il y a d'autres types de nouveaux entrants. Si on regarde sur Flickr, par exemple, tout autour, il y a une vraie économie qui est en train de se développer. Comme les MOOCART et des choses pareilles, qui sont des produits...
Mais ça, c'est
un temps fou pour arriver. Quoi.
Ça, derrière, c'est la concurrence des grandes agences de photos. C'est-à-dire que ça vient concurrencer complètement toutes les grandes agences mondiales de photos qu'on connaissait. Alors ça, c'est la génération téléphone portable où, effectivement, on a vu. Et il suffit de voir tout ce qui s'est passé, les derniers incidents qu'il y a eu sur la planète. Les premières images qu'on a eues, c'est des images de téléphone portable depuis 2010. Je crois, l'attentat dans le métro de Londres, c'était du téléphone portable. Enfin, tous les grands événements qui se passent, il y a quelqu'un qui est là avec son téléphone et qui, effectivement, le retransmet à une agence type Flickr, etc. D'ailleurs, il y a deux agences en France qui se sont montées là-dedans. Il y a Ayeda et puis une autre agence qui s'est montée. Et j'ai appris que l'agence France Presse est en train de monter aussi un département pour récupérer tout ça parce qu'ils se rendent compte que, effectivement, toute l'actualité brûlante, c'est issu du téléphone portable. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles utilisations. Moi, il y a une chose très intéressante. Alors, au niveau sociologique et psychologique, c'est que la photographie aussi a changé de statut. Et ça, je me suis battu en France auprès de toutes les instances, les syndicats, les associations, pour qu'ils fassent des enquêtes. Ils ont commencé à en faire en 2002, malheureusement il était un peu tard, et là il aurait fallu sonder non pas les 18-70 ans, mais les 11-18 ans. Effectivement, on s'est aperçu que la photographie a changé de statut. En gros, pour résumer, de son statut de mémoire, d'enregistrement du souvenir et de mémoire, elle est passée notamment dans les jeunes générations, et on le voit maintenant, donc ce que j'avais senti... Ouais. Mais je n'avais pas pu vérifier parce que faute de statistiques, c'est qu'effectivement, la photographie est passée d'un statut de mémoire à un statut, disons, d'entertainment et de communication. C'est-à-dire d'échange, de jeu, etc. C'est-à-dire qu'elle a plus ce statut d'enregistrement de la mémoire. Quoi. Et puis, il y a un autre phénomène donc, qui se développe énormément dans le monde, c'est les livres numériques. Ça invite le public à reconsidérer un petit peu son accès à l'image. C'est-à-dire qu'avant, bon, on avait la pochette, on faisait les photos, on donnait, etc. Maintenant, on a fait un événement, on fait les vacances, c'est un événement, et on va faire un petit livre numérique sur les vacances. Sur la communion, sur le mariage, naturellement, sur une sortie, sur une excursion, etc. etc. quoi. Donc, il y a des nouveaux produits qui sont en train de se développer. Je ne dis pas qu'au niveau chiffre d'affaires, il va y avoir une compensation de ce qu'était la photo argentique près des laboratoires et des négociants. Mais bon, il y a une compensation.
J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en train de découvrir la photo, justement peut-être avec leur téléphone portable, ils n'en faisaient pas avant, et puis ils commencent à se passionner, et on les voit s'équiper d'un téléphone portable, d'un compact haut de gamme, d'un bridge, d'un réflexe, d'un machin, et tous les ans ils rechangent de matos. C'est une tendance forte ou c'est juste ponctuel?
C'était une tendance forte, la montée du réflexe, qui était assez importante. Par contre, les derniers chiffres de cette année montrent, au niveau mondial, je ne les ai pas, hein, mais au niveau français, une légère stagnation du réflexe. Sans conclure définitivement, mais une première approche, on pourrait dire qu'effectivement, ceux des amateurs avertis qui étaient en argentique se sont équipés en numérique, mais qu'on n'aurait pas une nouvelle génération qui serait montée avec le numérique vers le réflexe.
Oui.
C'est à vérifier, mais cette année, j'ai vu les fabricants de réflexes, c'est vraiment, ça stagne. Par contre, ils ont vendu beaucoup d'objectifs complémentaires. Ça, ça marche bien, parce qu'en objectifs complémentaires, on est à plus 30 en France l'année dernière, et même en flash. Ça a fait redémarrer le flash, forcément, les fabricants sont pas fous. Il faut des flashs un peu spécifiques pour un certain nombre de types d'appareils, donc on vend un package. Mais je sais que les flashs doivent être à plus 13 en France, en 2007, et les objectifs à plus 30. Donc, on a un marché là. Alors, par contre, effectivement, passage au réflexe, là, grand point d'interrogation. Hein, parce que, alors, effectivement, chiffre d'affaires, c'est important. Là, c'est vraiment un point d'interrogation qu'on a vu à la fin de cette dernière enquête. À suivre de très près, parce que si ça se reproduit pendant 2 ans, il va falloir voir, effectivement, si c'est un phénomène qui est lié vraiment à l'achat des réflexes. Et deuxièmement, il faut savoir si c'est lié à un prix de vente encore trop haut ou si c'est lié à autre chose que les gens n'ont pas envie de passer au réflexe. Le réflexe, à l'heure actuelle, dans certaines occasions, moi, je ne le sors plus. Dans les foules un peu agressives, si je sors un Nikon, un D200, un D300 ou un D3, les mecs vont commencer par me regarder, etc.
Tout à fait.
Moi, j'ai fait des photos l'été, là, Paris-sur-Seine, là, voilà. Et enfin, c'était en argentique, mais j'avais un petit compact dans la main, j'avais des tongs et un short. Et là, je fais ce que je veux.
C'est sûr.
Il y a un mec qui a fait des photos avec un réflexe, il se prenait des photos de gamins, il a failli se faire lyncher. Et on l'a traité de pédophile. C'est
non, mais j'ai le truc quand je fais des photos de ma fille au manège. Effectivement, j'arrive avec le réflexe, le machin. Voilà. Ouais. Et alors, t'as les gens, les autres parents qui regardent. Heureusement que j'ai la gamine, quoi. Parce que sinon.
Bah oui. Non, mais...
En final, moi j'ai l'impression, quand on parle comme ça, que la mort de la photo, c'est plus la mort de certaines pratiques. Mais à côté de ça, il y a d'autres marchés qui s'ouvrent.
La question,
c'est de voir s'ils compenseront.
Je pense, il y a d'autres marchés. Et puis alors, bon, on va conclure là-dessus, mais je pense que. On est quand même dans un moment de l'histoire qui est un moment unique. Dans la communication, c'est un moment unique parce que c'est un moment où on a en même temps un changement des modes de communication et un changement des supports de communication. Et ça, dans l'histoire de la communication, ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que quand l'imprimerie est arrivée, on a effectivement eu un support qui a permis de diffuser autrement. Mais là, en même temps, on a des supports qui changent et on a des contenus de communication qui changent aussi en même temps. Par exemple, tout le monde a accès à la communication maintenant. On en a parlé. Avant, la communication était une communication qui était institutionnalisée. C'est-à-dire que le monsieur qui investissait à un moment 10 millions de francs, parce que c'était en francs, dans un système qui permettait de faire du montage vidéo ou du montage de nouvelles images en 3D ou du montage de diapositives, etc. À partir du moment où il s'était acheté l'outil que personne ne pouvait acheter, il s'était assuré de pouvoir avoir un business. Mmh. Maintenant, avec un téléphone portable, si la personne est là où il faut, elle va pouvoir envoyer et diffuser des choses. Bon, c'est-à-dire que l'investissement dans l'outil ne garantit plus une rentabilité directe. Bon, effectivement, il y a encore des studios de télévision, mais regardons ce qui se passe dans les télévisions à l'heure actuelle. Les télévisions vont être de plus en plus légères, de plus en plus portables, etc., etc. Tout est remis en cause. C'est-à-dire que tout l'outil remet en cause, effectivement, tout ce qui existait avant. Donc, on est dans ce monde, effectivement. Et il est très difficile de savoir où on va, parce qu'on est dedans. Il y a deux attitudes devant ça. On peut être déboussolé, complètement paumé, etc. Ou alors on peut imaginer d'envisager ce que penseront dans 100 ans les gens de cette période, en disant ils ont eu du pot ces gens-là, ils ont vécu une période où tout a changé.
Les Chinois ont, paraît-il, un proverbe qui est que c'est une malédiction de vivre dans des temps intéressants. Parce que c'est les temps effectivement où on désespère, c'est les où on s'inquiète.
C'est vrai qu'on s'inquiète, mais bon, ça veut dire qu'il y a deux attitudes. Alors, au niveau des boulots, c'est beaucoup plus stressant. Moi, bon, j'ai avancé, maintenant je suis très avancé là-dedans, mais je suis certain qu'effectivement, je dirais peut-être pas ça si j'avais 25 ans, quoi. Mm-hmm. Ou alors, c'est que je serais totalement gonflé et en me disant, c'est pas grave, dans 3 ans, je changerai de boulot, quoi. Voilà.
Ok, bah écoute, Bernard, merci beaucoup pour cet entretien. J'ai trouvé ça passionnant.
Voilà.
Merci.
Et à la prochaine.
À la prochaine, avec plaisir.
Troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. D'abord un mot pour vous signaler le dernier Focus Ring. Vous savez que Déclencheur a rejoint le Photocast Network, donc un groupement de podcasts consacrés à la photo. La plupart sont anglophones, mais il y a également des podcasts en espagnol et en allemand. Nous venons d'enregistrer avec plusieurs podcasteurs un Focus Ring, c'est-à-dire un épisode commun. C'est assez intéressant, allez écouter. Pour déposer un commentaire ou une réaction, il suffit de visiter le blog www.déclencheur.com. Un commentaire texte peut être déposé gratuitement. Une boîte vocale est également à votre disposition pour des commentaires audio. Pas mal de messages d'encouragement reçus de Franck de Tahiti, Stan, Daniel P, Whiplash, Fred, Jean-Yves, Emmanuel, Chris Lam, Rémi Vimon, Peter, Alain Thomas, Gabriel, Franck Doyen, Daniel Albert et Gabriel. Merci à vous pour ces encouragements. Quelques réactions au dernier Mac avec Sam Vauquin consacré au choix des papiers. D'abord, Pat Pro et Dabi qui répondent à une question de Fradange, qui, on s'en souvient, a une masse de photos dans iPhoto et ne sait plus trop comment les exporter de peur de perdre ses métadonnées. Pat Pro lui suggère un Apple Script qui va exporter les métadonnées dans les champs IPTC des images. Quant à Dabi, il fait la suggestion évidente. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé moi-même. Pourquoi ne pas passer sur Aperture, sachant qu'Aperture est capable de relire les bibliothèques iPhoto. Pierre-Luc souhaite des données supplémentaires sur la conservation des papiers et les mesures de conservation que l'on fait. Ce qui se passe, c'est que les différentes encres de l'image ne vont pas vieillir à la même vitesse. Et donc, on a un risque, si une seule des couleurs s'affaiblit, d'avoir en fait une image qui vire de couleur. Notons que le phénomène se passe aussi pour des tirages monochromes, des tirages noir et blanc, parce que l'imprimante va utiliser ses encres couleurs pour construire les nuances subtiles du gris. On a d'ailleurs le même phénomène avec des films couleurs. On a parfois une couche qui s'affaiblit plus vite que les autres, et l'image vire en fait. Ticalium est frustré par son imprimante, une HPC 5180, parce qu'elle imprime toujours une marge autour de ses photos. Alors c'est vrai qu'il y a des imprimantes photos qui peuvent imprimer sans marge, mais c'est pas toutes les imprimantes. Il y a deux solutions, soit acheter une imprimante plus haut de gamme, soit recouvrir cette bordure avec un passe-partout, et là je renvoie à des tout premiers épisodes de Déclencheur, on expliquait la fabrication des passe-partout. Fred qui demande un avis sur les imprimantes à sublimation par rapport au jet d'encre, j'ai pas vraiment d'avis parce que j'ai pas assez d'expérience avec les imprimantes à sublimation. Clairement, il y a moyen d'avoir de très beaux tirages avec ces imprimantes. Perso, je me suis pris vraiment d'une passion pour les tirages sur papier couché mat, C'est une technique qui a d'ailleurs ses limites parce qu'on a moins de dynamique avec les autres papiers. Mais j'ai appris à apprécier ces tirages-là. Et pour voir les réaliser, il me faut un jet d'encre. Et donc, c'est comme ça que je me suis tourné vers le jet d'encre. Mais de nouveau, les goules, c'est très personnel. Et donc, si la sublimation est ce qui vous plaît, il faut rester dessus. Le mini Lightroom, j'ai compris, a suscité beaucoup de réactions. Réactions qui tombent en plusieurs catégories. Soit comme Marianne, pour mettre l'accent sur une caractéristique de Lightroom qui en fait montre bien qu'il est effectivement conçu pour traiter plutôt une séance photo qu'une image à la fois. Marianne, par exemple, insiste sur le fait que Lightroom utilise des aperçus, ce qui le rend plus rapide pour traiter un ensemble de photos. Quelques réactions, comme celle d'Arnaud et de Christian S, qui s'interrogent sur l'aspect économique des choses. C'est clair, ça fait un logiciel de plus à acheter. Je dois dire que si je n'avais pas déjà payé ma licence de Photoshop CS3, aujourd'hui j'achèterais sans doute Lightroom et Photoshop Elements. Lightroom pour le traitement du gros des images, et Photoshop Elements pour pouvoir peaufiner une image ou réaliser un photomontage. Quelques réactions comme celle de Pep ou de Jovatou qui trouvent la définition que je donne un peu réductrice. Lightroom ne se limite pas à du traitement de reportage ou du traitement de session. C'est correct, c'est un logiciel de traitement RAW, toujours correct. Mais je trouve que le présenter comme un logiciel de traitement RAW, en final, crée beaucoup de confusion. Il suffit de voir le nombre de questions qui viennent demandant de comparer Lightroom par rapport à CS3, par rapport à Camera RAW, pour se rendre compte qu'il y a une vraie confusion à ce niveau-là. Et je crois que l'analogie que je propose, comme toute analogie, elle a ses limites et elle est réductrice. Parler de Lightroom comme le logiciel pour le reportage ou une session photo, donc un ensemble de photos, alors que Photoshop CS3 est l'outil pour le tirage d'exposition, la photo qu'on affine, peaufine, traite, ou le photomontage, donc la photo qu'on construit quelque part, c'est réducteur. Je crois que c'est plus clair. Mais continuons le débat, c'est comme ça qu'on apprend. Quant à Mr. Soul, il regrette la mauvaise qualité du moteur de rendu RAW d'Adobe, donc le moteur qui est intégré dans Lightroom en particulier. Oui, c'est vrai que c'est pas le meilleur. J'espère aller voir développer un SDK qui permettra à d'autres moteurs de rendu de venir se greffer sur Lightroom. Je l'ai annoncé par écrit sur le blog, on distribue maintenant comme charte grise les cartes TrueColor. 406 demande pourquoi les frais de livraison sont plus élevés que l'affranchissement. Deux éléments. D'abord, l'affranchissement réel est presque le double de ce qu'il a l'air de croire. Deuxièmement, et c'est vrai pour toutes les situations de vente par correspondance d'ailleurs, les frais de livraison comprennent non seulement les frais d'affranchissement, mais également l'emballage, une assurance pour la livraison, etc. Sur le dernier mini consacré à l'impact de l'environnement dans la gestion de la couleur, question de Pierre-Luc qui demande donc s'il faut absolument que le mur soit gris ou s'il peut être d'une couleur un petit peu plus joyeuse comme le beige. Je crois que ce qu'il faut surtout éviter, c'est une couleur très criarde. De toute façon, quand on achète du gris dans un magasin de peinture, c'est pas un gris neutre. Donc, je crois qu'il faut pas se prendre la tête avec ça. Mais c'est clair que si on essaye de faire de la retouche derrière un mur jaune ou à côté de soi une armoire rouge vif, bah, ça risque d'avoir un impact sur la photo. C'est vrai également pour les fenêtres à l'écran. Si vous avez des fenêtres très colorées, ça peut aussi impacter, en fait, la retouche. Et c'est pour ça d'ailleurs que les logiciels de traitement d'image ont souvent un mode plein d'écran avec un fond gris. Friette trouve qu'au montage, on a coupé un peu brutalement la fin de la phrase d'Emmanuel. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ces minis sont en fait des extraits d'interviews qui n'étaient pas au départ vraiment destinés à être présentés comme ça. Donc on a effectivement des compromis techniques parfois à réaliser. J'ai réécouté l'épisode et sincèrement, Baptiste n'a pas coupé au milieu d'un mot ou coupé au milieu d'une phrase. La phrase, elle est complète. Laurent cherche un magasin qui proposerait la calibration d'écran comme service pour éviter d'avoir acheté sa propre sonde. La boutique Apple de la région namuroise à Belsis avait un moment envisagé de mettre en place ce genre de service, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait. Enelix se demande si l'écran d'un iMac 24 pouces est potable. Je crois tout à fait. Il faut se méfier des iMac entrée de gamme. Pour avoir les prix les plus bas, ils ont fait certains compromis, en particulier sur la dalle des écrans. Il y a énormément de photographes ou de graphistes qui travaillent avec un iMac et qui ont des résultats tout à fait satisfaisants. Une petite discussion entre Gaël et Thomas Mersenne-Paris, le premier demandant comment créer un profil ECC sous Linux, le deuxième donnant quelques pistes tout en précisant qu'attention, les outils ne sont pas encore tout à fait matures. Enfin, Gaps et Thomas Desfossé nous proposent un lien vers des dossiers qu'ils ont préparés, respectivement sur le RAW et sur la colorimétrie. Au passage, j'adore le nom du blog de Thomas, câlin gratuit. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner. www.déclencheur.com. L'abonnement à un podcast est complètement gratuit, ça signifie simplement que vous êtes averti automatiquement de l'arrivée des derniers épisodes. À bientôt !